J'ai été effectivement sidéré par la survie de ces deux enfants, mais surtout, ce qui a pris le pas très vite et ce qui m'a encore plus sidéré, c'est l'amour qui a uni ces deux frères, en fait. Et moi, j'étais jeune papa. Alors, j'allais attaquer, là, justement, la période d'écriture de Babyphone en long métrage, et on l'avait déjà bien avancé, d'ailleurs. C'était en 2015. Et c'est vrai que j'étais encore dans ce choc humain où, quand tu viens d'avoir ton premier enfant, tu n'imaginais pas que tu puisses aimer autant, être capable d'autant d'amour pour un être sur cette planète. Et quand Michel m'a parlé de l'amour avec son frère, il m'a parlé de Patrice, de l'amour qui les unissait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il me parle d'un amour encore plus absolu que ce que je pensais être l'infini. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus frappé.
Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un réalisateur français qui dévoile son nouveau long métrage, Frère. Il raconte l'histoire vraie de Michel et Patrice qui, abandonnés petits par leurs parents, ont vécu pendant 7 ans livrés à eux-mêmes dans une forêt. 7 longues années à vaincre le froid et la faim, forgeant un lien indissoluble entre eux. Je reçois aujourd'hui Olivier Casas. Salut Olivier.
Salut.
Comment ça va?
Bah super.
Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, dans lequel je décompose des parcours inspirants. On se rencontre aujourd'hui pour la sortie de ton deuxième long métrage,
ouais,
Frère.
Exactement.
Alors on est à quelques semaines de la sortie au moment où on enregistre cet épisode. Tout simplement, comment te sens-tu là?
Écoute, je me sens très excité parce que là, j'ai envie que le film sorte. On vient de terminer la tournée province, il nous reste les dates parisiennes. Et là, j'ai très très envie que le film soit au contact du public.
Avant de parler plus en détail du film, je procède de la même façon avec tous mes invités. On va revenir non pas au début de ta carrière, mais de ton existence, vraiment pour planter le décor. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
Alors moi, je suis né à Bordeaux et j'ai grandi à Blanquefort, juste à côté de Bordeaux, dans la périphérie de Bordeaux. Pour tout te dire, à l'âge de 6 ans, je suis tombé fou amoureux du cinéma en découvrant L'Arnaque à la télévision, avec Paul Newman et Robert Redford. À l'époque, ma mère avait acheté un magnétoscope qu'on chargeait encore par le dessus, donc c'était vraiment les vieux magnétoscopes, les tout premiers, et je l'avais enregistré à la télé, je me souviens très très bien, et j'ai dû le regarder une bonne cinquantaine de fois dans les semaines qui ont suivi. J'ai été complètement happé par ce film, et ça a été le point de départ pour moi.
C'est Chicago pendant la Prohibition, c'est pas trop pour les enfants ça?
C'est pas trop pour les enfants. À l'époque, on laissait un peu les enfants regarder n'importe quoi. Mais j'ai quand même un souvenir d'Evil Dead à 9 ans tout seul à la maison où j'arrivais pas à aller éteindre la télé. Il n'y avait pas de télécommande et j'arrivais pas à aller éteindre la télé tellement j'avais peur. Donc oui, à l'époque, on faisait un peu n'importe quoi à ce niveau-là.
Et tu parlais de tes parents. Quel métier ils faisaient quand tu vivais encore sous leur toit?
Ma mère était secrétaire dans l'administration et mon père était commercial dans la chimie. Voilà, c'était très France moyenne, français moyen, en province, voilà. Un peu la génération rien à signaler. On n'a pas vraiment de culture urbaine, on n'a pas vraiment de culture du terroir. On est un peu au milieu dans un espèce d'un peu rien quand même.
Est-ce que tu as grandi malgré tout dans un bain culturel où la culture et l'art, quelle que soit sa forme, étaient présentes? Est-ce qu'il y avait la télé allumée? Est-ce que vous faisiez des sorties?
C'était plutôt la télé allumée que la culture à proprement dit, parce que je pense que dans ces années-là, début des années 80, moi je suis né en 76, donc début des années 80 en province, si t'étais pas parisien, si t'étais pas dans les grandes villes, en centre-ville, il y avait un rapport à la culture qui était quand même assez... qui se limitait quand même beaucoup à la télé, finalement. À moins d'avoir des parents qui étaient intellectuels ou des profs, des parents profs ou... On était quand même dans quelque chose d'assez télé. Il y avait les 5-6 chaînes de télé existantes. On voyait un peu tous les mêmes choses. Je ne peux pas dire que j'ai baigné dans un vrai bain culturel, ce n'est pas vrai.
D'ailleurs, tu as été pris de passion par le ciné, je crois, mais tu ne pensais pas en faire un métier parce que quand on vient de province, on est cloisonné. On ne s'imagine pas du tout évoluer professionnellement dans ces métiers-là, quoi.
Ah bah complètement. Même moi, j'ai même été ridicule face à ça parce que j'ai repiqué ma première à l'époque et je me suis retrouvé à une soirée de fête du bac de mes anciens potes qui eux n'avaient pas redoublé, avaient passé pour la plupart eu le bac. À cette soirée de fin juin, je discute avec un copain de copain que je connaissais pas plus que ça et je lui dis, mais tiens, on a un peu, je pense pas grand chose à se dire, et je lui dis pour meubler un peu la conversation, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Et il me dit, je vais faire une école de réalisation. Et je lui dis, mais réalisation de quoi? Bah, il me dit, pour être réalisateur. J'ai dit, mais réalisateur de quoi? Et il me dit, bah, réalisateur de cinéma. Et moi, ça faisait quand même, j'avais 1500 VHS chez moi, j'avais les murs de ma chambre tapissés, vraiment du sol au plafond, de jaquettes, de films. Je louais toutes les cassettes à mes potes, j'enregistrais, je regardais tout ce qui passait. Je bossais depuis des années dans le cinéma de mon bled pour aller voir les films gratuitement. J'étais à la caisse à craquer les tickets et ça m'avait même pas traversé l'esprit que ça puisse être un métier. À l'époque, c'était pour moi, il y avait une planète cinéma. Je m'étais même pas posé la question de savoir comment on atterrissait sur cette planète. Donc c'était et c'est là que j'ai eu une révélation. Je me suis dit, il faut que j'en fasse un métier.
Est-ce que tu faisais un petit inventaire des locations que tu faisais à tes potes? Parce qu'en général, quand on prête une cassette ou un DVD, on ne le revoit jamais.
On ne les revoit jamais. Non, il y avait un taux de perte absolument énorme. J'avais pas du tout le sens du business parce que c'était gratuit. Et en plus, je les revoyais pas une fois sur deux. Donc voilà, non, ça, c'était une très mauvaise opération.
Est-ce que tu es la génération télécassette où on découpait les jaquettes?
Exactement. Télévideo-jaquettes que j'achetais toutes les semaines. Et c'était le grand drame, c'est quand recto-verso, il y avait les deux côtés qui étaient intéressants. Et ça finissait avec une pauvre photocopie en noir et blanc. Et il fallait trancher entre les deux films. C'était terrible.
Et quand tu travaillais au guichet d'un ciné, j'imagine que tu as vu beaucoup plus de films là?
Ouais, j'ai vu beaucoup de films. Et surtout, ce qui était chouette, c'est que ça m'a permis de voir des films que j'aurais pas vus. J'ai un souvenir de Naked de Mike Lee, qui est un des premiers films de Mike Lee que j'aurais certainement jamais vu à la télé. Et ça m'a permis d'aller voir des films un peu sans trop savoir et d'avoir un rapport au cinéma un peu... avoir envie de me laisser surprendre. Et c'est quand même beaucoup plus facile de se laisser surprendre dans une salle de cinéma que chez soi, où on peut s'arrêter assez facilement dès qu'un film est un peu âpre, surtout à cet âge-là où on a quand même envie que ça bouge. C'est vrai que le fait de se retrouver dans une salle de cinéma un peu avec un rendez-vous qui n'était pas forcément prévu, ça peut être vachement intéressant parce qu'on peut avoir de très très bonnes surprises.
Et ça a été quoi ta première claque au ciné?
Alors, c'est pas la première, mais j'ai un grand souvenir de claque avec Pulp Fiction. Pour le coup, j'avais 20 ans. Je me souviens de Studio Magazine qui avait titré « Quentin Tarantino réinvente le plaisir du spectateur ». Je me suis dit, c'est quand même la critique ultime. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Non, j'ai un grand souvenir des Aventuriers de l'Arche perdue. Ça, oui, mais pareil, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais c'était n'importe quoi de m'emmener voir ça. J'avais pas du tout l'âge pour regarder un truc pareil.
Donc, passion débordante pour le cinéma, mais... n'aspirais pas du tout travailler là-dedans. Enfin, tu l'as dit, pour toi, ça te semblait impossible. Et c'est à quel moment qu'il y a l'événement Game Changer, quoi? À quel moment tu te dis c'est possible?
À partir du moment où je discute avec ce pote et que je vois que lui va faire ça, avec une année d'avance, je me dis, ça y est, je vais en faire mon métier. Alors c'est vrai que du coup, l'année suivante, quand j'ai eu passer le bac, je suis parti faire un BTS audiovisuel au Pays Basque, à Bayonne, avec la perspective de rentrer dans une des deux grandes écoles de cinéma qui sont la FEMIS et Louis Lumière. Et c'est vrai qu'après après avoir eu ce BTS, on m'a proposé tout de suite de devenir photographe, de bosser en plus à Bordeaux. Donc j'avais un boulot à 20 ans à Bordeaux. J'allais faire du surf l'hiver et j'étais avec mes potes. Et voilà, je me suis assez vite laissé embarquer par ça et j'ai oublié les concours avec 1% de taux de réussite. Je les ai un peu laissés de côté. Donc je n'ai fait ni Louis Lumière ni la FEMIS, même si je me suis rattrapé un peu après.
Tu mêles toujours l'utile à l'agréable, Bordeaux pour le surf, Bayonne pour les fêtes.
Ouais, c'était plutôt sympa. Mais ça a failli me faire passer à côté du cinéma, parce que c'est vrai que quand on a cette vie-là, on n'a pas du tout envie d'aller se galérer à Paris. Hein.
Et il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on lit sur Internet, tu as été artiste aussi?
Ouais, j'étais artiste parce que pendant le cinéma, ça a été quand même très dur. Hein. J'ai fait plusieurs courts-métrages, j'ai beaucoup bossé en télé. C'était aussi une époque où il n'y avait vraiment aucune passerelle entre le cinéma et la télé. Donc quand on faisait de la télé, il ne s'agissait pas de parler de faire du cinéma. En tout cas, ça n'apportait rien. Après moi, ce que ça m'a apporté, c'est que pendant des années, j'ai été monteur, j'ai été cadreur sur des émissions de flux, des documentaires, des reportages. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est très compliqué de les mettre en avant pour faire du cinéma. Donc je faisais mes courts-métrages à côté en espérant bien un jour qu'il se passerait quelque chose. Et j'ai commencé à écrire un premier long, puis un deuxième. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné où je me suis vraiment lassé de la télé et des émissions de flux. Je n'avais plus envie. J'allais vraiment bosser. C'était devenu une corvée pour moi. J'étais malheureux en fait, parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à faire du ciné. Et j'ai commencé à peindre, alors que je dessine comme une truffe, je suis nul en dessin. Et le hasard a voulu que j'ai fait une toile qui m'a bien plu, j'ai été l'exposer dans un bistrot qui est important, parce que c'est le bistrot dans lequel j'ai rencontré le personnage dont le frère raconte l'histoire, qui était mon QG, et j'ai mis ce tableau à vendre dans ce bistrot, et le lendemain matin, j'ai mon pote qui tient le café, qui m'appelle, qui me dit « ton tableau est parti, il y a un client qui l'a acheté ». Viens récupérer ton chèque. Et je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pas drôle, je raccroche. Et il dit, non, je t'assure, viens voir. Et ça a commencé comme ça. Et j'en ai vécu pendant 5 ans.
Tu l'as dit, t'as bossé à la télé, t'as été cadreur, après t'as été monteur, directeur de la photo. Toi qui es réalisateur aujourd'hui, je crois que tu as même pris des cours de comédie d'ailleurs.
J'ai pris des cours de théâtre, ouais.
Toi qui es le chef d'orchestre d'un film, est-ce que c'était important vraiment de faire tout ça, avoir la main dans le cambouis pour voir de quoi on parle et aussi pour avoir une certaine crédibilité auprès de tes équipes?
Ouais, alors c'était important pour moi, effectivement, mais il y en a plein qui n'utilisent pas, qui ne choisissent pas cette voie-là et qui font les choses très bien. Pour moi, c'était important. Et tu as raison de parler de crédibilité parce que je pense que, justement, venant de cette culture de province où le cinéma, c'est quelque chose de complètement mystifié, tout ça, je pense que j'avais encore plus besoin de me sentir légitime et crédible. Donc, je l'ai fait un petit peu comme un artisan qui a besoin de même s'il travaille moins bien que ses chefs de poste, il a besoin quand même de prouver, de montrer qu'il, voilà, et puis par intérêt aussi. Et puis, à un moment donné, ça paye aussi parce que je pense que ça t'apporte quand même ça apporte quand même quelque chose à ta création de connaître un peu les outils des gens avec qui tu travailles. Donc voilà, mais c'est un chemin qui est beaucoup plus long par contre.
Pour être réalisateur, beaucoup d'appelés, peu d'élus. On connaît tous ce gars qui est en fac de ciné ou en BTS audiovisuel, pour lequel on va faire des courts-métrages, pour qui on fait de la figure, pour des clips, etc. Qu'est-ce qui t'a permis vraiment de décoller? Le facteur chance cumulé au facteur travail?
Ah bah, il n'y en a qu'un seul, c'est la pugnacité. Il y a que ça. Là en tournée du film, il y a à Toulouse, il y avait une terminale option cinéma qui était là. Il y a un élève qui a pris la parole après le film et qui m'a dit, si vous avez on est plusieurs dans la salle, vous avez un conseil à nous donner. Et je lui ai dit sans hésiter, je lui ai dit, c'est de pas lâcher. C'est le seul conseil que je puisse te donner. C'est pas les meilleurs qui font des films, c'est ceux qui sont les plus tenaces.
On va parler de Babyphone, qui est ton premier long. Heureusement, tu n'as pas une filmo encore super étendue, donc ce qui nous permet de revenir sur ce film, qui était d'abord en court-métrage, je trouvais ça intéressant, et que tu as adopté ensuite en long. Pour repitcher un petit peu, c'est au détour d'un dîner, les révélations faites à travers le Babyphone d'une chambre d'enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d'une famille et un groupe d'amis. Pitch très très simple. Je crois que le court-métrage avait été primé au Los Angeles Comedy Festival, et le long a été sélectionné le festival de films de comédie de l'Alpe d'Huez, tout simplement parce que je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est l'inverse opposé du film Frère. Là c'est un huis clos, donc 1h30 dans un espace qui est le même. Ça a été fait maintes fois au cinéma. Comment on trouve sa singularité dans un tel format?
J'ai voulu apporter un soin extrême et vraiment particulier à la lumière et à la photo. Donc on a tourné avec des optiques anamorphiques en scope, ce qui n'est pas du tout courant pour une comédie. Et on a énormément travaillé la lumière. Enfin, le chef opérateur Sylvain Rodriguez, qui n'est pas le chef op de Frères, mais avec qui j'ai fait ce premier film, a fait un travail remarquable sur la photo. Et on a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de soins à l'image. Moi, je suis très, très influencé par le western, vraiment. Et on le voit dans Frères. Mais Babyphone, il y a un côté... le repas, notamment, il y a une scène de repas qui est assez longue. C'est vraiment un western. Voilà, je l'ai vraiment pensé comme ça, en tout cas. Donc, c'est vrai que voilà, l'écueil, c'est évidemment, vu qu'on est dans un décor unique, c'est de pouvoir réinventer ce décor. Donc, ça veut dire aussi réfléchir à une façon de le filmer pour le dévoiler par petites bribes, pour pas tout cramer toutes ses cartouches tout de suite et que le film devienne trop... ou alors assumer carrément la dimension théâtrale. Mais j'en avais pas non plus tellement envie, donc j'ai essayé de... Voilà. Et à un moment donné, il y a un événement dans le film, il y a une coupure de courant qui fait que tout s'éclaire à la bougie, qui m'a permis de revisiter ce décor avec une lumière complètement différente. Donc on l'a vraiment... À l'écriture, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu développer pour en pensant en réalisation et en pensant justement à réinventer ce décor grâce à la lumière.
Très riche en détails, le décor, j'ai trouvé aussi...
Ouais, il y avait beaucoup de détails, ouais, c'est vrai.
Et dans le court, j'imagine que tu vas directement à l'essentiel et ne retenir qu'une seule et unique situation, tandis que sur le long, on le sent, c'est plus axé sur la réussite au sein du groupe, sur comment submerger dans tout ce bordel. Les deux approches sont différentes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué au final, quand on a peu de temps ou plus?
Ah non, c'est quand on en a plus. Et surtout, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est moi, je me suis dit, génial, j'ai un court qui a bien marché, j'ai déjà une super base pour un long. Et en fait, ça a été plus compliqué d'écrire ce long en ayant cette base-là que de partir dans le long avec rien. Parce que le gros écueil de passer de ce... Pour moi, le court-métrage, c'est un bâton de dynamite. À l'échelle d'un court-métrage, ça suffit, il y a cette promesse, c'est dynamique, et puis tout a pété, et puis fin de l'histoire. Là où, sur un long, c'est bien d'avoir le bâton de dynamite, mais si on n'a rien à faire sauter, ça n'a aucun intérêt. Donc, il a fallu construire toute la maison pour pouvoir justement la dynamiter derrière. Donc, ça a été un long, long travail. Et ça a été, je pense, plus compliqué d'écrire avec cette contrainte-là que de partir d'une histoire vierge. Et c'est vrai que, pour le coup, il y a un thème auquel je suis très, très attaché qui revient souvent, c'est le thème de l'amitié. Et je trouvais intéressant d'exploiter dans cette thématique de l'amitié, comment la réussite des uns et des autres vient polluer et influer sur les relations d'enfance et l'amitié d'enfance. C'est le vrai thème du film, c'est celui-là.
Et Babyphone, donc, c'est une comédie, mais avec une dimension tragique, si je dois mettre vulgairement des étiquettes. Donc en gros, quand on voit le film, il y a quelque chose de jubilatoire de voir ces personnages prendre le pied dans le tapis, mais en même temps, on est touché par ce qui leur arrive. Ça doit être un plaisir d'amener cette part d'émotion
Ouais, ça a été un plaisir. Et par contre, moi, c'est vrai que ma grande frustration sur l'aventure de Babyphone, et je m'inclus dans cette erreur, c'est que par volonté d'en faire une comédie populaire, et en tout cas qu'elle fonctionne comme une comédie populaire, de l'extérieur, on a, je pense, trop cherché à la rendre potache. Et il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur Babyphone sans l'avoir vu, qui a un avis de comédie un peu poète-poète, un peu grossière, sans profondeur, alors que ça parle de vrais thèmes. Ça parle aussi de la parentalité, de ce que c'est que de devenir parent, ce que ça raconte avec ses propres parents. Et Babyphone, je l'ai écrit avec Audrey, qui se trouve être ma femme et la mère de mes enfants, et un troisième qui est un pote, Serge Lamadi. Et c'est vrai qu'avec Audrey, on a fait toute une phase d'écriture assez longue avant que Serge nous rejoigne. Et on s'est beaucoup inspiré de qu'est-ce que ça raconte dans un couple d'avoir un enfant, qu'est-ce que ça raconte par rapport effectivement à nos parents, comment un enfant vient déplacer tous les équilibres qui étaient à peu près acquis et à peu près installés dans une famille aussi. Donc toutes ces questions-là, on les traite avec beaucoup de sérieux et on l'a abordé avec une certaine profondeur. Mais on voulait le faire par le biais de la comédie et on voulait, on a voulu se marier en le faisant. Mais c'est vrai que je pense que, un de mes regrets sur Babyphone, c'est vraiment de l'avoir trop présenté comme une comédie potache, alors que généralement, les gens qui l'ont vu me disent « Ah, mais c'est vachement surprenant, j'ai été ému, c'est beaucoup plus profond que ce que j'imaginais, et voilà. »
Il y a un côté féministe que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont exorcisées. Est-ce que c'est justement la patte de ta compagne qui a écrit
Ouais. Et bien alors, figure-toi, c'est très drôle parce que la tirade de Anne-Marie Vin, qui est extrêmement féministe, je l'ai écrite en grande partie et je me suis auto-sabordé. Je me suis fait du mal à moi-même sur le côté s'il ne fait pas son petit sport, il n'est pas bien. S'il n'a pas son truc, il n'est pas bien. Le petit chou, le petit truc, alors que moi, je gère toute la maison. Et je me suis défoncé moi-même. Donc, j'assume le fait que non seulement elle est féministe, mais en plus elle est beaucoup de moi cette partie-là.
En tout cas, j'ai revu le film pour préparer cet entretien et vraiment, je trouve qu'on échappe à beaucoup de clichés des comédies justement et j'invite vraiment les gens à le regarder. Et là, on va parler de Frères, du film qui nous amène aujourd'hui. Que dire déjà en aparté, je voulais dire que ce film m'avait vraiment cueilli et m'a redonné un petit peu foi au cinéma français. Parce qu'il raconte, donc son second long métrage, il raconte l'histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans, Michel et Patrice de Robert, qui ont été abandonnés par leur mère en 1948, donc on est après la Seconde Guerre mondiale, et ils s'enfuient donc dans la forêt. Ils vont y survivre pendant 7 années et tisser un lien qui les unira à jamais. Des décennies plus tard, les deux frères quittent tout pour se retrouver, mais le passé et les secrets les rattrapent, même à l'autre bout du monde. Et là, on en a parlé tout à l'heure, Michel de Robert, donc un des deux protagonistes du film, c'est quelqu'un que tu connais dans la vraie vie, qui était ton ami pendant une dizaine d'années, mais tu n'as pas connu son histoire tout de suite.
Non, ça fait partie des cadeaux de la vie. En fait, Michel, on fait partie d'une bande de copains depuis 20 ans dans ce fameux bistrot où moi j'allais écrire et où j'ai passé tout mon temps, où j'ai tourné Babyphone, un court-métrage d'ailleurs, sur le trottoir. Les plans extérieurs sont faits sur le trottoir du café. La régie, c'était dans le café. Enfin, c'est vraiment mon QG depuis 25 ans. Et c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'avec toute une bande de copains, on se retrouve le matin pour démarrer la journée ensemble. Et quand on peut y passer, on reste une petite heure avant de chacun aller bosser. Et Michel, on a tous des profils très différents, des âges différents. Ça va de 40 à 80 ans. Et avec chacun ses métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Comme le petit microcosme et le petit village des certains cafés parisiens. Et c'est vrai que Michel, pour moi, c'était c'était l'architecte de la bande. On est dans le 17e, dans un beau quartier. C'est Michel-Paul de Robert, toujours très bien habillé, une belle montre, des belles chaussures, enfin bref, un statut de notable. Et c'est vrai qu'à l'été 2015, on s'est retrouvés ensemble, invités par un ami commun de cette bande, dans une maison en Ardèche, que Michel venait de rénover, de restaurer en tant qu'architecte. Et ce copain nous avait tous invités en disant « Venez, je réceptionne la maison, venez tous avec femme et enfants et on passe un week-end, il y a 8 chambres, on va passer un super week-end tous ensemble. » Et pendant ce week-end, il y a Michel qui s'est posé au bord de la piscine avec un bout de bois et un couteau et qui s'est mis à le tailler comme un Indien Cherokee. Et ça m'a totalement interpellé parce que pour moi, c'était encore une fois un notable quelque part. Et à ce moment-là, je me suis approché de lui et je lui ai dit est-ce que par hasard, il n'y aurait pas quelque chose que tu m'aurais caché ? Et il a eu un petit sourire, il s'est senti en confiance et il m'a dit, bah, tu sais, j'ai une enfance un peu particulière. Et c'est là qu'il m'a raconté son histoire.
Mais si je suis bien renseigné, tu l'as raconté assez brièvement, en 15 minutes, et c'était plié. Toi, tu l'as poussé dans ses retranchements.
Et je l'ai poussé dans ses retranchements. Je ne l'ai pas lâché, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est que cette histoire donc de survie pendant 7 ans en forêt, Michel et Patrice, une fois devenus adultes, et en ayant bien réussi tous les deux, parce que Patrice était quand même devenu directeur d'une polyclinique dans l'Est de la France. Donc Michel, architecte, tous les deux l'ont gardé secrète jusqu'à la mort de Patrice à la cinquantaine. Donc ça a été leur secret, c'était leur jardin secret à eux. Et donc Michel a commencé à en parler à sa propre famille, à son fils, à sa femme, après la mort de Patrice, mais sans trop rentrer dans les détails non plus. Et ce jour-là, ça faisait quand même 20 ans que Patrice était parti déjà. On en parle souvent depuis évidemment, mais ce jour-là, il a senti que c'était le moment, quoi. Donc, mais il a fallu, ça a pris du temps. On a discuté pendant presque 5 années avant que je commence à écrire le scénario quand même.
Tu as fait quelques interviews pour la promotion de ce film et le terme qui revient souvent quand tu parles de la façon dont tu as accueilli cette histoire, c'est le terme de sidération. On est proche du choc émotionnel, c'est vraiment ce que tu as ressenti.
Ouais, mais la sidération, elle n'a pas été à l'endroit qu'on peut imaginer, parce que j'ai été effectivement sidéré par la survie de ces deux enfants, mais surtout, ce qui a pris le pas très vite et ce qui m'a encore plus sidéré, c'est l'amour qui a uni ces deux frères, en fait. Et moi, j'étais jeune papa, j'allais attaquer là, justement la période d'écriture de Babyphone en long métrage, et on l'avait déjà bien avancé d'ailleurs. C'était en 2015. Et c'est vrai que j'étais encore dans ce choc humain où quand tu viens d'avoir ton premier enfant, tu n'imaginais pas que tu puisses aimer autant. Être capable d'autant d'amour pour un être sur cette planète. Et quand Michel m'a parlé de l'amour avec son frère, il m'a parlé de Patrice, de l'amour qui les unissait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il me parle d'un amour encore plus absolu que ce que je pensais être l'infini. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus frappé.
Et tu voyais le petit garçon aussi ?
Et j'ai tout de suite vu le petit garçon qui, effectivement, Michel avait déjà 70 ans à l'époque, il en a 78 aujourd'hui. Et je l'ai vu avoir l'œil qui pétille et voilà, il me parlait de ses souvenirs avec, et aussi avec énormément de bonheur. C'est ça qui est fou, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que quand on raconte cette histoire, on parle de deux enfants abandonnés qui passent 7 ans en forêt. On se dit, les pauvres garçons, ça a été terrible. Et en fait, oui, il y a eu des souffrances, il y a eu le froid, il y a eu des choses très dures, mais ils ont été heureux comme personne, c'est ça qui est fou.
À propos des enfants, des tiens, je crois qu'ils ont fait des petits caméos dans Babyphone.
Bah ouais, ils apparaissent. Il y a une scène avec des gitans qui offrent à ces deux enfants un moment hors du temps et une chaleur qu'ils n'avaient encore jamais ressentie. Et ma fille joue une petite gitane qui danse dans le film, dans cette scène. Et mon fils joue de la guitare. Et il a fait plus que ça, mon fils, parce qu'il a co-composé la musique du film avec Cyril Morin et moi. Donc, c'est une belle aventure, ça aussi.
Et du coup, Michel, après avoir accueilli cette histoire qui t'en est parlé pendant plusieurs longues années, comment vous avez pensé à l'adapter au cinéma ? Est-ce que ça a été une évidence pour toi ? Est-ce que c'est lui qui t'a soumis l'idée ?
Non, alors moi, si j'avais laissé les choses telles quelles, il ne se serait rien passé du tout. Parce que Michel, à chaque fois que je l'appelais pour qu'on se voit, pour parler de son histoire, c'est moi qui étais proactif parce que lui, à aucun moment, il m'a sollicité. Et il y avait des fois où d'ailleurs, il me faisait comprendre que ce n'était pas forcément le meilleur moment, que, voilà, qu'il n'avait pas ça, c'est qu'il n'avait pas forcément envie d'en parler à ce moment-là. Pris du temps, je l'ai fait à son rythme. Mais moi, j'ai su tout de suite que je voulais en faire un film et puis je lui ai dit tout de suite. Pour le coup, c'était très clair, mais j'acceptais aussi que l'aventure puisse s'arrêter en plein milieu et qu'un jour, ils me disent, tu sais, ça fait des mois qu'on parle et finalement, j'ai pas envie que ça devienne public, j'ai pas envie que ça devienne un film. Et je pense que Michel le dit, donc c'est pour ça que je me permets de le dire pour lui. Il y a aussi eu quelque chose de très thérapeutique dans nos entretiens. On a discuté des heures et des heures pendant ces 5 années. J'ai enregistré nos conversations, je les réécoutais après. Et je pense que quelque part, ça a été aussi une thérapie pour lui. Aujourd'hui, il est tellement heureux que ça existe. C'est un hommage incroyable à son frère. Et puis, je sais qu'il a eu envie aussi d'aller au bout de ce cadeau pour moi parce qu'il a vu à quel point j'ai été bouleversé par cette histoire. Et je pense que dans les moments où il aurait pu dire « Bah, tu sais quoi ?» Laissons les choses, laissons le passé là où il est. Il a tenu en se disant, je ne peux pas faire ça à Olivier parce qu'il en a trop fait. Quoi.
On a l'impression que le film, c'est l'histoire d'une fratrie entre Michel et Patrice, mais entre toi et Michel. Oui,
ouais, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. C'est... D'ailleurs, au remerciement du film, moi je suis fils unique. J'ai une demi-sœur, mais qui est bien plus jeune que moi, avec qui je n'ai pas grandi. Donc j'ai vraiment grandi comme un fils unique. Je le remercie en disant que c'est le frère que, que j'ai aujourd'hui. Et puis il m'a fait ce qui est une déclaration d'amour, c'est qu'il m'a il y a quoi 3-4 ans, quand pour mon anniversaire, il m'a envoyé un texto en me disant bon anniversaire frérot. Quand on a vu le film et qu'on sait ce que ça veut dire que le mot frère pour lui, je pense que voilà, il y a eu un avant un après.
Ce film, je l'ai dit, se passe après-guerre et rend hommage aussi par le prisme de l'histoire de Michel et Patrice à ses enfants perdus après la Seconde Guerre mondiale, qui sont estimés à 340 000. Et comme nos deux protagonistes dans le film, personne ne les a trouvés parce que personne ne les a cherchés. C'est un pan méconnu de l'histoire, je trouve. Moi, personnellement, on ne me l'a jamais appris, je n'en ai jamais entendu parler. Et toi, c'est par l'histoire de Michel et Patrice?
Ah ben, complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en permanence, quand on discutait et que moi, il me voyait sidéré par tout ça, il me disait, mais tu sais, ça n'a rien d'extraordinaire. À l'époque, des enfants perdus, il y en avait partout. Il y a plein d'enfants qui ont vécu des histoires similaires à la nôtre. Et donc, à force d'entendre Michel normaliser tout ça par rapport à son vécu à lui et cette époque-là, donc on est en 1945, je me suis renseigné et très vite je suis tombé sur des études et des documents historiques qui donnent le vertige, parce qu'en 1946, à la fin de la guerre, il y a plus d'un million d'enfants qui sont sans foyer, 1 300 000 enfants, donc c'est même bien plus qu'un million. Et comme tu le dis, 13 ans après la fin de la guerre, en 1958, on estime à 300 000 enfants en Europe le nombre d'enfants dont on a perdu la trace civile. On est 13 ans après la fin de la guerre, on est en 1958, on est au bord des années 60 et on n'en parle jamais. Ouais, on n'en parle jamais.
Ce film, il aurait pu être traité de plusieurs manières différentes, parce qu'on sacralise beaucoup l'idée, mais avoir un bon film, un bon sujet, c'est cool, mais le travail qu'il y a derrière est plus important. Sur la forme, tu as décidé de parler de cette histoire par deux temporalités, presque trois, quand ils sont enfants et qu'ils rentrent vraiment dans la vie sauvage, entre guillemets, quand Michel a justement 4 ans et Patrice presque 7. Après, on les voit un tout petit peu plus vieux, donc la fin de la période de la forêt, donc 7 ans plus tard. Et d'ailleurs, le casting des enfants est incroyable, parce que je n'ai pas percuté tout de suite que c'était deux pères d'enfants. Et puis, il y a eux, la cinquantaine passée, qui sont campés par Yvan Attal et Mathieu Kassovitz. Cette histoire de plusieurs temporalités, cette façon de raconter, ça t'est venu assez naturellement ou
ouais,
ça s'est travaillé au fil des années?
Non, ça a été évident, parce que pour moi, dès le départ, justement, ce que tu disais tout à l'heure sur la fraîcheur de cette histoire pour Michel et le fait que je sentais l'enfant qui parlait en lui, j'ai compris tout de suite que en fait, c'était autant Michel que Patrice, ils avaient construit leur vie en rebond permanent par rapport à cette histoire. Je pense que c'est un peu l'histoire de l'existence. On est quand même beaucoup, malgré nous, en réaction et en reproduction permanente par rapport à l'histoire de l'enfance. Mais encore plus quand on a une histoire aussi forte. Et je voulais absolument que cet écho soit là dans le traitement même du film. Donc d'être en permanence dans une alternance entre le passé et le présent. Mais qu'il soit pas une alternance narrative, qu'il soit une vraie alternance sensorielle, en fait.
Pour présenter un petit peu Michel et Patrice, donc Patrice, c'est le frère aîné, c'est lui qui a la responsabilité de la survie des deux frères, il a un courage vraiment hors du commun, et Michel, c'est plus un génie de la construction, de l'ingénierie, c'est lui qui construit les cabanes, donc chacun avait sa propre place. Et sur le fond, on a parlé de la forme, sur le fond, le biais que tu as décidé d'emprunter, c'est vraiment l'amour inconditionnel entre ces deux frères. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au cinéma, cet amour-là, de cette puissance-là, il n'est pas tant abordé. En général, c'est la filiation père-fils, mère-fille, etc. Là, c'est vraiment deux frères. Est-ce que tu avais des références en tête ou non? C'était cette expérience unique
non,
de Michel
et
Patrice.
Non, et puis il y a eu un élément que je n'avais pas du tout estimé au départ. C'est que déjà, je ne pensais pas que je mettrais 5 ans à écrire la première ligne du scénario. Parce qu'en fait, après avoir eu toutes ces discussions avec Michel, je me suis retrouvé avec une masse d'informations et de vécu tellement colossal que ça aurait pu être... Enfin, j'avais une structure qui faisait plus de 4 heures, donc c'était absolument impossible à produire. Et ce que j'avais sous-estimé, c'est le temps qu'il nous faudrait pour le produire, parce que ça a été un film qui a été compliqué. Il a failli s'arrêter à plein de moments, ça a été un vrai combat. Et donc, entre la première discussion au bord de cette piscine et la sortie du film le 24 avril, il se sera écoulé presque 9 ans. Donc, cette histoire, en fait, elle est... Eh ben, 9 ans, moi aujourd'hui j'en ai 47, c'est quand même un morceau de ma vie, quoi. Donc c'est devenu aussi une part de mon intimité, une part de mon affect. Enfin, donc c'est vrai que je l'ai abordé de plus en plus avec quelque chose d'intime et de personnel. Donc en termes de référence sur cet amour fraternel, c'est vrai que je n'avais pas de référence précise. Il y a toujours plein de références inconscientes, hein, surtout quand on a vu des centaines et des milliers de films, il y a plein de choses. Mais souvent on me dit ah mais tiens ça tu l'as ça c'est on sent qu'il y a eu ça il y a eu ça je dis ah, et je l'admets quand on me le dit mais je dis j'avais pas pensé mais on est baigné là-dedans. Mais c'est vrai que comme tu dis c'est assez rare de voir une vraie histoire d'amour comme ça entre deux frères, c'est pas courant, ouais. Je pense que c'est pas courant.
puis ce qui est génial, surtout dans un film français, c'est le côté Robinsonade. Ces films Robinson Crusoe, Vendredi, certains livres de Jules Verne, ça a dû être génial à filmer.
Ouais, c'est super. Et puis ce qui a été super aussi, c'est de travailler avec ces quatre petits comédiens qui incarnent donc Mathieu et Yvan. Et c'est vrai que moi, je les appelle les quatre fantastiques parce que c'est vraiment... ils sont incroyables. Ils ont été absolument dingues. Et on a eu une grande chance, c'est que très vite, on a tout fait pour pouvoir jouer la nature, qui est le troisième personnage du film, sous toutes ses facettes. Donc, ça veut dire il faut lui laisser le temps. Quand tu veux filmer une saison, il faut attendre que ce soit la saison. Donc, on a tourné sur quasiment une année. Alors, on avait 9 semaines de tournage, mais ça s'est étalé sur presque un an. Et ce qui a été génial, c'est que ça a permis à ces jeunes petits comédiens de mûrir et de grandir en même temps que le film et que leur personnage. Donc ça a été un cadeau pour eux et pour moi aussi, parce que je les ai vus prendre leur envol au fur et à mesure et ils ont une intensité aujourd'hui que je trouve absolument incroyable, vraiment.
C'est intéressant ce que tu as dit, la nature c'est vraiment un personnage à part entière dans le film, parce que Michel et Patrice, leurs plus belles années, ils l'ont vécu dans cette forêt et on les sent vraiment dans le film, c'est ce que tu as réussi à retranscrire en symbiose avec les besoins primaires. Quoi.
Ah bah, et ce qui va même plus loin, c'est que quand tu parles de cette histoire, effectivement tu dis mais c'est voilà, deux enfants abandonnés c'est terrible, mais en fait ils n'ont eu des problèmes qu'avant et après. Avec les adultes, mais quand ils ont été tous les deux abandonnés, livrés à eux-mêmes et au contact de la seule nature pour les protéger, mais aussi pour leur donner froid et des fois pour les attaquer, parce que ça a été dur. Mais en tout cas, eux seuls avec la nature, ils s'en sortaient parfaitement.
Et comment ont réagi les enfants quand vous leur avez présenté l'histoire de Michel et quand, j'imagine, ils ont rencontré Michel ?
Ah bah c'était très marrant parce que le deal avec les parents, c'était qu'ils leur lisent une fois le scénario dans l'intégralité et après plus du tout, parce que je voulais surtout pas que ça devienne leur livre de chevet avec la petite histoire du soir et que ça devienne quelque chose de mécanique et que le jour où on jouerait les scènes, ils soient en train de réciter leur texte. On a pris cet engagement ensemble et donc c'était une lecture du scénario et c'est tout. Et après, je leur ai dit, le scénario, vous ne l'ouvrez plus, on va faire des séances de préparation, on va se voir régulièrement et je ferai des petites répétitions, mais vraiment, c'est moi qui doserai ces répètes. Et donc, quand ils ont su qu'ils allaient rencontrer Michel, on est parti en stage avec Marc Robert qui fait ce travail-là de coaching avec les enfants et qui avait organisé un stage chez lui dans la Drôme. Quand ils ont su qu'ils allaient rencontrer Michel, ils étaient tous là à me dire, mais c'est le vrai Michel ? T'es sûr que c'est vrai ? Et j'avais l'impression de leur présenter Batman. Quand il a débarqué, je me suis dit, mais ils sont... C'était assez fou. Et ce qui était super, c'est que Michel a été tout de suite... il est très, très à l'aise avec les gamins. Et il leur a montré comment ils faisaient les cabanes, les trucs. Ils avaient plein, plein de questions. Et une petite anecdote sympa, c'est qu'à un moment donné, il leur dit, bon, ben, venez, je vous emmène à la rivière. On va marcher un peu dans la forêt. Et donc, il part avec les quatre enfants et il y a les grands qui lui disent mais comment tu faisais au début avant de chasser les lapins. Il dit je mangeais des escargots, des limaces, beaucoup de végétaux, mais voilà, on bouffait ce qu'on trouvait quoi. Et puis il est en train de descendre vers la rivière et il voit un escargot, il le chope et il le bouffe. Et le grand Fernand lui dit mais c'est dégoûtant. Il dit non, tu vois, enfin c'est pas mauvais. Et puis quand t'as faim et puis ils avancent un petit peu et puis il y avait les deux petits derrière qui était un peu à la traîne, et il y en a un des deux, il avait chopé un escargot, il l'avait décortiqué, il était en train de le bouffer sans rien dire à personne. C'était fait, ça y est, c'était bon.
J'imagine que tu es revenu dans ce bois où Michel et Patrice ont grandi, qui est en dessous de La Rochelle. Est-ce que lui, il y était retourné ? Et sinon, comment il a réagi quoi ?
Il n'était pas retourné, donc on y est retourné en plus à un moment un peu particulier, parce que c'était le jeudi et le vendredi qui ont précédé le confinement. Le confinement, tu sais, qui a démarré lundi soir, il me semble. Ça, on a eu le message présidentiel le lundi soir, et j'avais dit à Michel, il faut absolument qu'on y aille. J'ai démarré l'écriture, et je sens qu'on va être... tout le monde nous dit qu'on va être bloqué chez nous, donc il faut qu'on y aille. Donc on y est allé la semaine qui a quelques jours avant, et c'est vrai que il n'était jamais revenu sur place, donc ça faisait 70 ans qu'il n'était pas revenu à Châtelaillon, là où tout s'est passé, sachant que les spectateurs le découvrent dans le film, leur fuite, elle est liée à... D'abord, ils ont d'abord été abandonnés par leur mère dans un home de vacances, et ensuite il y a eu un drame sur place qui fait qu'ils se sont enfuis. Et ce home de vacances existe toujours, et c'est devenu une maison bourgeoise, mais la bâtisse, elle est toujours là. Et c'est vrai que quand Michel est tombé nez à nez sur cette maison, il a eu un choc, il a poussé un cri vraiment de... Il y a 70 ans de passé qui remontent d'un coup, quoi. C'est difficile à raconter. Donc c'est vrai que ça a été très très fort, très intense. Et en même temps, ça a été aussi une nouvelle étape dans sa réparation, parce qu'on a rencontré des gens, on a retrouvé des personnes qui se souvenaient de certains détails, de certaines choses. Enfin, donc ça lui a fait aussi beaucoup de bien à ce niveau-là. Jusqu'à ce que même on retrouve un des enfants qui était au home de vacances, qui est un monsieur qui a 89 ans aujourd'hui, que j'ai eu au téléphone il y a 2 ans. Et un jour, le jour où j'ai montré à Michel les enfants, que j'ai, après la fin du casting, où je lui ai présenté les 4 petits gamins qui allaient les jouer à l'écran, je lui ai dit, écoute, j'ai un autre cadeau pour toi. J'ai retrouvé, tu me parlais d'un monsieur qui s'appelait Jacques Hiralon, qui était au home de vacances avec vous. Ben, en fait, il avait un frère qui était plus grand que vous, lui aussi. Et ce monsieur, j'ai retrouvé son numéro. Et si tu veux, on va l'appeler. On l'a appelé. Et quand on l'a appelé, c'est Michel qui a pris la parole, qui a dit « Je suis Michel de Robert, j'étais au Farfadet, au Boucholeur. » Et ce monsieur l'a coupé immédiatement et lui a dit « Mick, c'est toi ? Mais vous étiez où avec Patrice ? On vous a cherché partout avec mon frère. Vous êtes passé où ?» Et quand on connaît le film, et ce monsieur, il s'est trouvé qu'on l'a rappelé quand on était en tournée, on savait qu'il était dans le sud. Quand on l'a appelé, on lui a dit « On va venir, on est dans le coin, est-ce que c'est possible de venir vous voir ? On vient vous chercher, on vous amène voir le film. » Il dit « Moi, j'habite à Mont-Sartoux, à côté de Cannes. » Et il se trouve qu'on avait calé une projo là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, à Mont-Sartoux, il habitait à 100 mètres du cinéma. On était allé chercher en voiture, mais ça n'avait aucun intérêt parce qu'il aurait pu faire la route à pied. et ils se sont tous les deux tombés dans les bras 70 ans après. Et on l'a emmené voir le film. C'était un moment d'une émotion absolument dingue.
Incroyable cette histoire. J'en ai des frissons, pour être honnête. Tu as parlé de plusieurs événements donc, qui ont provoqué la fuite de ces enfants dans le bois à côté du home de vacances. Parce que ces événements, ils mettent fin à leur innocence. Il y en a plusieurs, ils vivent des choses vraiment très difficiles. Également cette disparition de plusieurs jours de Patrice dans la forêt. Et Michel, actuellement, il ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
Non, il ne sait toujours pas. On a tenu tous les deux à ce que ça soit dans le film, parce que c'est un élément important. Évidemment, on pense que ça a été aussi un élément fondateur de plein de choses derrière. Quand je dis fondateur, c'est plutôt destructeur, mais en tout cas, voilà. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas et il a demandé maintes fois à son frère de lui dire qu'est-ce qui s'était passé. Il n'a jamais voulu lui dire. Donc, eux qui ont tout partagé, qui ont même partagé ce secret si bien gardé sans en parler à leur propre famille pendant près de 50 ans, ils ont été eux aussi séparés par un secret et Michel n'a jamais su ce qui s'est passé.
Pour terminer avec ce qui s'est passé dans la forêt, on a parlé de moments un peu légers, de ces années qu'ils ont adorées, ce sentiment de liberté, etc. Mais il y a des moments aussi durs dans le film, des phrases un peu choc, la chaleur de l'un, c'est la survie de l'autre. Et là où je trouve que tu as fait vraiment fort, c'est ces silences. Ces silences qui distant, alors qu'à l'américaine, il y aurait une grande tirade, la petite musique qui va bien. Là, un silence, et c'est encore plus impactant, quoi.
Bah ça, c'est aussi mon goût pour le western. Pour le coup. Et puis, c'est aussi la chance de pouvoir se reposer sur des acteurs qui savent incarner et remplir ces silences. Parce que sur une histoire comme celle-là, et les dialogues, ils sont juste là pour illustrer les silences qui sont entre les mots. C'est surtout là que ça se joue. Parce que enfants, ils n'ont pas grand-chose à se dire. Ils ont à vivre et à survivre. Et adultes, ils se connaissent tellement qu'ils n'ont encore moins de choses à se raconter, quoi.
Alors justement, la pré-forêt, une des questions que l'on se pose, et surtout compte tenu de leur situation dans le futur notable, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment on fait pour reprendre une vie et pas avoir de carences, surtout sur le plan scolaire, etc., se réintégrer, pas être sauvage comment ils l'ont vécu, ça ? Est-ce que tu peux nous
dire ? En fait, ils ont été, à un moment donné, resociabilisés, et ils ont vécu une année d'enfer chez un couple de précepteurs à Paris. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ils ont, comme je parlais de noms à particules et de notables tout à l'heure, ce sont des enfants issus de ce qu'on appelle des bonnes familles, hein, c'est même la famille Aristo, enfin voilà. Ils ont été mis chez ces précepteurs pendant un an, qui avaient pour mission de les rendre scolarisables et de rattraper les années d'école qu'ils n'avaient pas eues. Donc ils se sont retrouvés à bosser du matin au soir de manière acharnée, ça a été un enfer pour eux. Et évidemment, l'entrée à l'école a été chaotique parce qu'ils étaient encore très violents. Donc ils ont été séparés, ils ont poursuivi chacun leur scolarité de leur côté. Michel a été mis en pension, dans des pensions fermées dans lesquelles il sortait, il rentrait en septembre, il repartait en juin, donc il rentrait même pas pour Noël. Et évidemment, il s'est enfui à maintes reprises pour retrouver son frère. Et de là, il a été mis en maison de correction, où c'était encore plus serré. Et en fait, quand on est enfermé comme ça toute l'année et qu'il n'y a rien d'autre à faire que travailler, on travaille. Donc il a bossé, il a rattrapé son retard scolaire. Patrice, de son côté, a lui aussi plutôt été finalement studieux. À peu près à 18 ans, Michel s'est retrouvé à monter à Paris, à venir à Paris pour être commis d'architecte à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il travaillait au Vepler, qui était une grande brasserie parisienne qui existe encore. Et il faisait la plonge là-bas pour payer sa chambre de bonne. Il avait quitté la maison parce qu'avec sa mère, évidemment, c'était trop compliqué. Et un soir, le garçon de café avait fini son service et il lui dit « Tiens, Michel, est-ce que tu peux ramener un café au monsieur qui est là-bas ? Moi, j'ai fini mon service, est-ce que tu peux lui amener son café ?» Et Michel lui amène son café et il voit que ce monsieur, qui est un peu plus âgé que lui, il a une petite trentaine d'années, est en train de travailler des plans sur une table et de dessiner ce qui apparaît être comme les plans d'une maison. Et Michel glisse une tête, regarde, et ce monsieur voit qu'il s'y intéresse, il dit « Ça te plaît ? Ça t'intéresse ?» Il dit « Bah ouais. » Et il dit « Bah tu vois, je sors des Beaux-Arts, je suis diplômable comme architecte, et je suis en train de dessiner, mon père m'a donné un terrain, je suis en train de dessiner les plans de ma maison. » Et en fait, un architecte, quand il bosse pour lui, ben, il a tout le temps une nouvelle idée, donc il n'arrive jamais à se décider. Et là, ça fait 2 jours que je suis sur ce problème. Et Michel lui dit « Mais je peux regarder ?» Et puis s'assoit à côté de lui. Et il commence à discuter un petit peu, et puis Michel le regarde et lui trouve la solution. Il faut savoir que dans le film et dans la vie, c'était le constructeur des cabanes. Et ce gars le regarde, lui dit « Mais tu fais quoi, toi ?» Ben, il dit « Mais moi, je fais la plonge ici. » Donc, il est un peu surpris de voir ça. « Mais tu fais quoi d'autre ?» Il me dit « Ben, je cherche du travail. Là, j'ai rendez-vous dans un cabinet qui fait du béton armé dans 3 jours. J'espère bien rentrer là-dedans. » Mais il dit « Mais il faut que tu deviennes architecte. » Et Michel lui dit « Mais je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas le bac. » Et le gars le regarde droit dans les yeux et lui dit « De l'argent, moi j'en ai. Demain, tu vas venir avec moi aux Beaux-Arts, je vais te présenter le responsable et il va te donner un exercice et si ça marche, tu vas devenir architecte. » Et c'est ce qui s'est passé.
Et justement, comme beaucoup de personnes de ces générations-là, celles de Michel qui ont 70-80 ans aujourd'hui, qui ont eu des parcours violents, certains même rescapés de l'enfer, on va le dire, ben, il y avait quelque chose de très secret, ben, comme Michel et Patrice qui n'ont jamais parlé de leur secret. Ouais, c'est une génération très taiseuse. On ne dit pas les choses à ses enfants, à sa famille, pour ne pas perpétuer de génération en génération, alors qu'aujourd'hui, on est une génération où tout est axé sur la communication, la santé mentale, on parle beaucoup, on a tous un psy, etc. Et tu l'as dit, ils n'en parlaient même pas à leur famille, quoi.
Tu le résumes très bien, c'est-à-dire que c'était la génération de « si tu as eu un problème ou un trauma, n'en parle pas, ça va passer ». Et en fait, quand tu parles de génération en génération, c'est comme ça qu'on se rend compte que de génération en génération, on se trimballe des valises qui ne sont pas les nôtres, parce que justement, il y a un moment donné, la vérité n'est jamais sortie et on ne comprend pas pourquoi on a des schémas inconscients qui se répètent. C'est parce que justement, les secrets n'ont pas pu sortir et être alchimisés. Donc, ils sont évidemment de cette génération-là et ils font partie, effectivement, tu l'as dit très bien, de ces traumatisés qui ne parlent pas et qui ne parlaient pas. Donc, jusqu'à ce que... Alors, je pense que si Michel avait été tout seul, il en aurait parlé parce qu'il y avait aussi quelque chose de particulier, c'est que c'était leur jardin secret à tous les deux. Donc, dès qu'ils étaient ensemble, qu'ils passaient un week-end en famille... Dès que tout le monde était couché, ils se retrouvaient dans le salon et pendant une bonne partie de la nuit, ils revenaient sur les souvenirs de la forêt et ils ne parlaient que de ça. Donc en fait, ils entretenaient ce secret tous les deux. Mais c'est vrai que oui, c'est la génération qui parlait pas. Ouais.
Parce que pour pas spoiler le film, à un moment, donc dans la version adulte des enfants, il y a le personnage de Patrice qui est campé par Mathieu Kassovitz qui a besoin de revisiter un des lieux de son enfance. Et Michel, donc, qui est campé par Yvan Attal, ben, il plaque tout pour le retrouver. Quoi. Il est prêt à vraiment quitter femme et enfant pour aller auprès de son frère. Et c'est en ça que je m'étonnais de ce côté secret, de ne rien dire à sa famille, quitte à se les mettre à dos et voir partir. Quoi,
et c'est encore plus compliqué de qu'ils puissent comprendre ce geste qui est quand même violent, qu'ils ne sont même pas au courant du lien et pourquoi il fait ça. Au-delà d'être attaché à son frère, ils peuvent à aucun moment estimer leur histoire et le pourquoi du comment.
Ce que je trouve fou, c'est que les sentiments ils sont exacerbés. Donc là, je viens d'évoquer un exemple où on est prêt à tout quitter pour rejoindre son frère. Et en même temps, je trouve qu'il y a énormément de pudeur. Ça, c'est quelque chose que tu retranscris bien dans le film. Beaucoup de pudeur, et comme on le disait tout à l'heure, quand ils étaient enfants, pas besoin de mots, juste ils savent quoi, qu'ils sont là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive.
Ouais, ils n'ont pas besoin de se parler, c'est ce qui fait la force de ces grandes relations, et c'est vrai que... D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, quand Yvan Attal et Mathieu Kassovitz ont rencontré Michel, Yvan posait beaucoup, beaucoup de questions, et Mathieu était un peu plus taiseux de son côté à l'observer, et à un moment donné, Mathieu intervient et il dit à Michel, ton frère rentre dans le bar, là. Qu'est-ce qui se passe ? Et Michel lui dit, ben, je me lève, je le prends dans mes bras et on ne se dit rien. Pas besoin, tout est dit. Et Mathieu l'a regardé, il lui a dit, ok, ça me va.
Et d'ailleurs, apparemment, il n'a pas été chaud tout de suite, Mathieu Kassovitz, et c'est quand il a su que c'était une histoire vraie qu'il a foncé, quoi.
Ouais, on a failli se rater avec Mathieu parce qu'effectivement, il avait un planning très chargé à ce moment-là, au moment où on tournait. Et on a eu un retour négatif par le biais de son agent. Et j'ai voulu l'appeler pour en savoir plus, ce qui habituellement est une démarche qui sert vraiment à rien. Parce qu'une fois qu'un acteur a dit non, à part vous le dire de vive voix, il va te le répéter. Et donc, je lui ai passé un coup de fil en le remerciant d'abord d'avoir lu le scénario. Et puis assez vite, on n'avait pas grand-chose à se dire. Parce qu'une fois qu'il m'a dit qu'effectivement, il avait un planning chargé et qu'il ne ferait pas le film, c'était le blanc. Et au moment de raccrocher, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, en tout cas, je voulais juste te dire que c'est vrai que autant je suis très attaché à Michel, autant Patrice je l'ai pas connu, mais que ce soit pour Michel ou pour Patrice, je ne peux pas confier ces personnages à n'importe qui. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Tu m'as dit que tu n'avais pas le temps, c'est pas grave. Au revoir Mathieu. Et au moment où je vais pour raccrocher, Mathieu me coupe et me dit, mais pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Quand est-ce que tu tournes? Et en fait, quand Mathieu a su que c'était une histoire vraie, il a dit oui.
Jamais rien lâché.
Jamais rien lâché.
Comme on disait tout à l'heure pour Babyphone, je trouve que le personnage de la mère, il y a un petit côté en avance sur son temps. Elle fait croire à sa propre mère qu'elle a pris les enfants avec elle pour un reportage en Amérique du Sud, mais il n'en est rien. Enfin, ça paraît difficile à imaginer une femme après-guerre comme ça, qui est carriériste, et surtout que c'est possible.
Ouais, c'est possible, et je suis content que tu l'aies vu, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui, évidemment, elle abandonne ses enfants, et c'est un personnage qui est extrêmement dur, violent, négatif, mais je voulais surtout pas en faire un diable. Ce qui la sauve un peu dans tout ça, c'est qu'elle avait une grande modernité, parce que dans les années, on était en 1945, c'était une intellectuelle, elle était journaliste. Elle gagnait sa vie, elle fumait des cigarettes, elle enchaînait les aventures avec les hommes comme elle en avait envie, et elle avait surtout fait le choix d'être une femme avant d'être une mère. Alors ça, c'est évidemment une version extrêmement obscure et sombre du féminisme, mais c'est vrai qu'elle défendait des valeurs avec beaucoup de courage qui ont été défendues des années plus tard, et c'est vrai que c'était pas évident de s'imposer comme ça en 1945 en étant une femme avec cette envie de liberté, même si évidemment ça a un prix, et on voit que c'était ce qu'elle a fait, absolument terrible. Mais je voulais surtout pas en faire un personnage diabolique, parce que ça aurait été trop simple. Et puis quelque part, quand Michel en parle, il est le premier à reconnaître qu'aujourd'hui il a de l'indifférence pour sa mère, mais qu'il n'y a ni haine ni jugement, et il est le premier à dire que ce serait trop simple de la juger. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et si elle en était là, c'est aussi parce qu'elle avait eu une histoire et une enfance compliquée, et que voilà, donc c'était important pour moi de montrer aussi des éléments positifs de ce personnage.
Ce film, il a une dimension exceptionnelle de par le propos, la véracité de l'histoire, le casting, les lieux de tournage qui sont très très beaux, et pourtant tu l'as dit, ce film il a failli s'arrêter à plein de moments, sa survie était en jeu, petit budget je crois aussi. Et pourtant, quand on le regarde, c'est pas pour de la flagornerie, on touche au sublime, quoi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment là, l'idée de montrer aux gens que ce soit un produit fini, qu'il est plus à Michel, j'imagine.
Et c'est une grande récompense parce qu'on a transpiré, on a eu très très peur, ça a été vraiment très dur. Et d'ailleurs, les producteurs du film Quad, chez qui on est là aujourd'hui, ont pris un risque financier qui ne se prend plus aujourd'hui dans le cinéma. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Et malgré tout, je suis content que ce manque de moyens et toutes ces péripéties-là, on les voit pas aujourd'hui. Et on a tout fait pour que ce soit pas le cas. Mais c'est vrai que... Enfin, que ce soit le cas, que ça se voit pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là, pour le coup, avec ce film-là, je suis content d'avoir eu ce parcours un peu touche-à-tout. Parce que ça m'a permis de cadrer la deuxième caméra. Ça m'a permis je pense d'avoir été monteur aussi, malheureusement devoir faire l'économie d'une script. J'ai beaucoup préparé aussi en amont. Enfin, ça a permis aussi de trouver les moyens de faire rentrer l'économie du film dans une faisabilité qui était vraiment pas évidente parce qu'on a eu énormément de soucis, et même en cours de tournage, ça a failli s'arrêter, quoi. Ça paraît dingue, mais c'est le cas.
Pour clôturer le chapitre de ce film, je voulais te dire deux phrases que Michel a dit dans des interviews récemment. S'il était là, donc Patrice, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Donc raconter l'histoire, faire le film. Et je mesure aujourd'hui que cette histoire est folle. C'est parce que les gens me le disent que j'en prends conscience. Ça paraît fou quand même.
Ouais, mais encore une fois, c'était le quotidien de beaucoup d'enfants. Et malheureusement, il y avait quelque chose de presque un peu banal, et ça paraît fou. C'est surtout ça qui est fou, c'est de se dire qu'il y avait une banalité dans le fait que les enfants soient livrés à eux-mêmes, et on les voit un jour, on les voit pas le lendemain, c'est pas ce qu'ils sont devenus, c'est pas grave.
Je voulais savoir quels étaient tes projets pour la suite, quand on a été autant investi dans un film. physiquement, émotionnellement? Est-ce que on cherche un projet de la même teneur ou c'est impossible? Tu as des idées en tête? Comment ça se passe pour toi?
Alors, j'ai des projets que j'ai développés ces dernières années dans les moments où bah, justement, ça allait pas aussi vite que je le souhaitais, notamment sur Frères. Donc, il y a des envies. Après, je t'avoue que là, aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre des vacances et de sortir de cette aventure et de profiter de tout ce qui vient. Et d'en sortir tout doucement, de aussi prendre le temps de vivre des choses autour, parce que ça a été quand même extrêmement intense et chronophage. Donc ça veut dire passer du temps avec ma famille, avec mes amis, voilà, être un peu dans quelque chose d'un peu... Arrêter de courir, parce que ça a été intense. Et je cherche surtout pas à retrouver la même intensité, parce que je pense que des aventures comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup dans une vie. Donc si je commence à vouloir vivre aussi fort avec autant d'éléments, ça, je risque d'être déçu. Donc je pense qu'il faut quelque chose de différent, mais qui ne soit pas comparable.
Pour conclure cet entretien, quelques petites questions en rafale et aussi plus légères pour te connaître sous un prisme différent. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
Alors, j'en ai pas une qui est incontournable, mais il y en a une que j'aimerais être incontournable, c'est de prendre le temps le matin. Je me lève très tôt, c'est-à-dire que j'ai tendance à prévoir 2 heures pour me préparer. Et quand je peux, j'aime bien méditer pendant 10 minutes. Ça me fait beaucoup de bien. Mais malheureusement, elle n'est pas incontournable. Je ne le fais pas tous les matins.
Je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle.
La peur irrationnelle, non, je crois pas.
Est-ce que tu aurais un petit coup de cœur culturel? Film, série, livre, expo?
Bah, j'ai rien vu ces derniers temps. J'ai rien lu, j'ai rien vu. Je suis sur le film du matin au soir, donc je n'ai aucun intérêt culturel en ce moment.
Bah tiens, dis-nous un petit peu les retours là en province sur les projets.
Allez, les retours sont assez dingues, parce que les spectateurs sont bouleversés par le film. On a des témoignages qui nous ont bluffés, qui nous bluffent. C'est assez dingue. Et ce qui me surprend et ce qui nous surprend encore plus, c'est le témoignage de jeunes spectateurs. Hier, on était à Lille et on a une famille qui est venue nous voir, qui est venue me voir, et je pensais que c'est la maman qui voulait me parler. En fait, elle me dit, il y a mon fils qui voulait vous, il a 8 ans et il voulait vous dire quelque chose. Et il me dit, tout timide, il me dit, je voulais juste vous dire que j'ai été super ému à 8 ans. Je suis resté un peu sans voix. Donc non, on a des retours qui sont formidables. Vraiment, les gens sont bouleversés. Et pour moi, là où c'est vraiment une belle récompense, c'est que de par la densité de l'histoire, ça aurait pu devenir une série. Je me suis vraiment battu pour que ce soit un film de cinéma et que ça existe dans une salle de cinéma, parce que je trouve que c'est ça aussi le cinéma, c'est de vivre des grandes émotions ensemble et de voir que les gens répondent présents et sont bouleversés et qu'il y a une espèce de charge émotionnelle qui s'installe avec le film et qui fait que quand les gens, on est en débat avec eux et qu'on discute, on sent que le débat pourrait durer 1h30, il dure généralement plus d'une heure, mais que personne ne bouge et qu'ils sont là avec cette histoire, avec leur histoire, avec ce que ça fait résonner chez eux, et c'est tout, et qu'ils sont en train d'oublier le temps du film et le temps de cette rencontre, ce qui se passe dans leur vie. Je trouve ça génial, parce que pour moi, c'est ça, la salle de cinéma.
Et Michel, je crois qu'il t'a accompagné sur certaines...
On a fait toutes les avant-premières ensemble.
Ouais. Lui qui avait cette histoire au fond de lui pendant des décennies, d'avoir son histoire avec son frère projetée dans tous les UGC Gaumont de France devant un public.
Bah, ça s'appelle la résilience. Ah bah, c'est génial. Et puis quand les gens, après avoir vu le film, voient débarquer le protagoniste dans la salle, c'est pas tous les jours que tu vois un biopic et que tu vois débarquer la personne dont c'est l'histoire. C'est quand même un sacré moment.
3 dernières questions, Olivier. Je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, quelqu'un que tu connais ou pas, quelqu'un du métier ou un autre métier d'exception, pour que je reçoive dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble.
Tu me prends de court, mais si tu me laisses le temps de réfléchir pendant 5 minutes, je vais te trouver ça.
Tu pourras y revenir après. Mais peut-être pas tout de suite, parce que là, c'est la question la plus philosophique. On a parlé de ton parcours, j'ai essayé de le faire du mieux possible en 1 heure. Je voulais savoir si, sur la sphère professionnelle, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as envie de dire pardon ?
Ah là là. Alors, s'il y a quelqu'un, j'ai peut-être besoin de dire pardon, c'est à moi-même, oui, ça c'est sûr. Parce que je me suis fait beaucoup de mal, parce que dans ce métier, on a beaucoup tendance à se comparer les uns les autres. Tu sais, à comparer là où on sont les uns les... À l'époque où j'avais pas encore fait le premier film, j'avais souvent tendance à regarder l'âge des gens qui venaient de sortir un film pour venir. Je disais, mais attends, moi j'ai tel âge, il ou elle a déjà fait son film, et ce truc-là, cette comparaison un peu permanente. Donc c'est vrai que S'il y a quelqu'un avec qui j'aurais pu dire pardon à l'époque, c'est moi, parce que vraiment, je me suis maltraité, vraiment. Après, j'ai forcément blessé les gens à des moments, et voilà. Mais je pense que si ça a été le cas, je leur ai dit. Parce que pour le coup, je suis quelqu'un qui... j'ai plein de défauts, comme tout le monde, mais j'éprouve vraiment le besoin de m'excuser. Et voilà, si j'en ai conscience, en tout cas, je le fais.
Et pour terminer, après avoir parcouru un petit peu ta vie de ses débuts jusqu'à ce film Frère qui sort au cinéma, je voulais savoir si à l'instant T, professionnellement, tu avais atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle.
Oui, vraiment, grâce à ce film.
Bah, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Olivier.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Olivier Casas. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.